Bonjour et bienvenue à cette discussion autour de l'œuvre d'Elgar Heidemeister. Le cycle se poursuit jusqu'au 3 juillet et dans les jours à venir, tous les films du cycle seront montrés pour la deuxième fois. Pour la BPI, il était très important de rendre hommage à cette cinéaste allemande, décédée en novembre dernier et dont l'œuvre documentaire, puissante, complexe et engagée, est encore malheureusement trop peu connue en France. Certains films de sa filmographie ont pourtant circulé en festival. Le cinéma du réel, organisé par nos collègues à la BPI, est un festival qui a entretenu des liens étroits avec Elgar Heidemeister. Plusieurs des films de la rétrospective y ont été montrés. Le rêve acheté, Si c'est ça le destin qui a été le Grand Prix 1980, Dans la splendeur de ce bonheur, Gotted Cell qui a été Grand Prix 2001, Texas Kaboul et Mon cœur voit la vie en noir. Elle a joué un rôle de correspondante pour le festival, tentant de rendre compte du cinéma documentaire allemand. Et un festival qui a également fort soutenu le travail d'Elga est le Festival international de films de femmes de Créteil. Nous avons la chance d'avoir travaillé avec ce festival à cette table ronde. J'ai donc le plaisir d'être en présence de Jackie Buet, directrice du festival, et de Marina Mazzotti, programmatrice au festival. Le festival a pensé très justement à faire appel à Maxa Zoller, directrice du Festival international de films de femmes de Dortmund, pour nous donner un éclairage allemand à cette discussion. Le Festival de films de femmes de Dortmund, il me semble, a récompensé Elgar Heidemeister pour l'ensemble de son œuvre en 2011. Nous devions également être en présence de Sophie Martinieux ce soir. C'est une chef opératrice française qui vit et travaille en Allemagne et qui a fait l'image du film sur Gotted Cell. Malheureusement, pour des raisons personnelles tragiques, Sophie ne pourra pas être des nôtres ce soir. Nous pensons à elle. Je me suis entretenue avec elle un bref moment et j'espère être en mesure de pouvoir partager avec vous son témoignage. Jackie, je te laisse à présent la parole pour nous dire un peu mieux la place qu'Elga a eue pour le Festival de films de femmes et pour la replacer au sein d'une génération de femmes cinéastes.
Ça marche. Et bonjour à tout le monde. On va être en petit comité, mais je pense que les personnes qui sont venues sont particulièrement intéressées par Elgar Heidemeister. Et je voulais dire deux petits mots de bienvenue à Maxa, qui vient d'arriver d'Allemagne, qui a pris le train avec ses enfants et qui est là au rendez-vous. Grande spécialiste du cinéma, notamment expérimental, mais pas que, grande cinéphile, et donc directrice du Festival de films de femmes de Dortmund, Cologne, puisque c'est un festival qui a l'avantage d'avoir deux points de convergence, et à Cologne et à Dortmund. Donc c'est... Je ne sais pas. Bon, on verra. Si on a le temps de parler des festivals, on le fera. Voilà. Est-ce que tu veux que j'enchaîne alors donc sur la présentation de Elga? Et merci évidemment à Marion qui a fait tout ce travail de préparation. Merci à mes côtés, à Marina Mazzotti, qui, elle, fait partie de l'équipe du festival et nous a complètement épaulés dans la construction du programme. Donc voilà, elle s'occupe, entre autres, à Créteil, des archives du festival, et c'est un travail qu'on aime beaucoup faire, de garder la mémoire des films qu'on a découverts. Alors, s'agissant d'Elgar Heidemeister, je vais quand même faire un petit détour. Au tout début du Festival de films de femmes de Créteil, qui est né donc en 79 à Sceaux, on va fêter les 45 ans en mars 2023, donc vous voyez, c'est un long chemin. Et on a vraiment à cœur d'avoir des partenaires comme Dortmund-Cologne, parce que c'est très important qu'il y ait d'autres festivals de films de femmes. Et celui de Dortmund-Cologne, il a déjà presque 35 ans, je ne me trompe pas. 40. Bon, alors, formidable. Voilà. Donc on est presque nés en même temps. Alors, c'est donc une belle opportunité de découvrir les films de Elgar Heidemeister dans ce programme. Et puis, je pense que tout de suite, il faut dire, enfin, moi, je dois le dire, c'est un cinéma qui me touche profondément. Parce qu'il me touche politiquement, il me touche dans mon engagement féministe, il me touche aussi dans ses choix artistiques, dans son point de vue à l'image, dans sa relation aux individus, particulièrement des femmes qui sont interviewées, et cette distance, ou au contraire cette proximité qu'elle sait établir, c'est un grand travail de très grande qualité. On sent que Elgar et de Meester a un potentiel humain extrêmement fort. Et bon, on n'a pas redit qu'elle avait été assistante sociale, mais c'est quelqu'un qui a connu les protagonistes de certains de ses films. Donc, ça n'est pas de sa part une volonté d'être intrusive dans la vie des gens, mais au contraire d'être très respectueuse et de permettre la parole, d'où l'intitulé de cette table ronde, provoquer la parole. Oui, la caméra d'Helga Reidmeister parvient à libérer cette parole. Et là, je rejoins donc un petit peu l'objet de mon intervention, qui est de resituer Helga Reidmeister dans les années 79-80. Nous avons démarré ce festival parce que à Berlin, contrairement à Cannes, où je vais être un peu critique, déjà, quelques réalisatrices étaient présentes dans les programmes. Et donc, on s'était dit, avec Elisabeth Tréhard, qui en était la co-directrice à l'époque, et qui est donc la co-fondatrice également, on s'était dit, on va inviter les Allemandes, puisqu'elles sont à Berlin. On ne les connaît pas à Paris. On connaît Wim Wenders, on connaît Schlendorf, on connaît Schroeder, on connaît Fassbinder. Pas du tout les réalisatrices allemandes, c'est-à-dire les Helga Reidmeister, les Margaret von Trotta, les Elma Sanders, les Ulla Stöckel. Je ne vais pas dire tous les noms, mais on pourra y revenir. Donc, réunissons ces réalisatrices. Comment les accueillir? J'appartiens à peu près, enfin avec quelques années un peu plus jeunes, à la génération des réalisatrices allemandes que nous allons honorer à travers Helga. Et on avait eu l'intention de les inviter, d'inviter les réalisatrices françaises à les rencontrer. En intitulant cette première rencontre, alors c'est un titre que je dois expliquer, c'est « Les filles des ennemis héréditaires ». Et oui, parce que nos parents avaient fait la guerre les uns contre les autres. Et nous, génération après-guerre, nous avions la démarche de réconcilier les deux nationalités, l'Allemagne et la France. Et à travers le cinéma, on a trouvé vraiment formidable opportunité de rassembler cette génération qui, alors, d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire en Allemagne et en France, beaucoup plus en Allemagne qu'en France, était dans un cinéma très politique, dans un cinéma très féministe. Donc, tout de suite, les filles de nos ennemis héréditaires se sont rencontrées à Sceaux. Alors, je vais vous donner quand même quelques noms parmi les présentes dans cette année-là. Donc, en 2017, il y avait du côté Allemagne Elke Sanders, Elma Sanders, Ulla Stöckel, Helga Reidmeister, Jutta Bruckner, Ulrike Oettinger. Et du côté français, il y avait Chantal Akerman, Aline Serman, qu'on ne voit plus beaucoup, Christine Laurent, Maud Linder, Juliette Berthaud, Jeanne Labrune, Charlotte Silvera et Delphine Seyrig. Pardon, en 97, pardon, je me suis trompée. Oui, merci. Marina, elle va être précieuse pour nous aider à resituer dans les époques. Et donc, on a accueilli les Berlinoises et les Parisiennes dans cette rencontre. Et ce fut avec l'appui d'ailleurs du Goethe-Institut à l'époque et d'une grande journaliste que je voudrais honorer aujourd'hui, qui malheureusement est décédée depuis, qui s'appelait Heike Hurst. Je ne sais pas si parmi vous, dans cette salle, les gens du public connaissent cette grande journaliste, mais elle a été très très importante. Et elle a écrit dans une revue, peut-être que Maxane nous en parlera, Frauenfilm, qui est une des premières revues féministes sur le cinéma des femmes, ce qui n'existait pas du tout pratiquement chez nous à Paris. Donc nous avons travaillé à la réconciliation parce qu'elles étaient féministes, parce qu'elles étaient solidaires, qu'elles constituaient un vrai collectif côté allemand, alors que du côté français, on avait Agnès Varda, déjà une pionnière, et puis Chantal Akerman, mais il n'y avait pas de collectif en France au niveau des réalisatrices. Elles étaient très, très isolées, très individualisées. Et donc, comme l'a écrit Marguerite Duras dans un très bel article sur le film emblématique de cet hommage, Si c'est ça le destin, Helga, le film, donc, le premier film ou un des premiers films d'Helga Reidmeister, parle du prolétariat de l'Allemagne d'après-guerre. Et elle souligne également que, à un moment dans le film, cette femme qui s'appelle Irène dit « Je sais maintenant quelque chose, il faut raconter sa vie, il faut mettre au courant les autres, il faut, et la seule chose à faire, c'est ça. » Et c'est vraiment toute cette époque où les réalisatrices ont cherché à donner la parole. Voilà. Donc je ne vais pas être plus long parce que je pense que Maxa, qui a fait le voyage, a beaucoup de choses à nous dire sur la biographie et les premiers films d'Helga. Voilà. Merci de votre attention.
Vous pouvez m'écouter. Bon. Bonsoir tout le monde, je suis Maxa Zoller, je vais parler en français, je vais me débrouiller, sauf les nombres, 77, 19, 20, 14, je ne sais plus les nombres, non, je ne me souviens plus, mais j'étais fille au père ici à Paris il y a beaucoup d'années, et donc
je vais essayer. Tradition parce que les réalisatrices dont j'ai parlé ont fait la même chose.
Oui, comme Alice Schwarzer.
Bonne façon d'apprendre le français.
Mais moi, ce que je voulais dire au début, c'est que je parle un peu de l'extérieur sur l'œuvre de Helga Rademeister, parce que moi-même, pour les raisons de guerre, je n'ai pas vécu en Allemagne pendant 20 ans, et ça fait 3 ans que je suis à Dortmund. Donc, je vois l'Allemagne aussi avec les yeux nouveaux, si vous voulez, et mon contexte plutôt, c'était, j'étais à Londres et en Égypte. Donc, mes références cinématiques sont un peu différentes. Donc là, j'ai redécouvert l'œuvre de Helga, que je ne connaissais pas très bien. Et donc, je parle avec d'une point de vue de quelqu'un qui est une nouvelle génération. Et peut-être c'est pour ça que Helga, pour moi, c'est vraiment... elle me fait comprendre le pays après la guerre jusqu'aux années 90. Yes. Et aussi, je comprends pourquoi cette façon de faire les films documentaires a changé dans les années 2000. Je vois que l'intimité que Helga puisse installer entre elle et les subjects, les sujets,
les protagonistes.
Ça, c'est né d'un moment très spécial des années 68, d'une situation politique très, très, très spéciale. Et ça n'existe plus, et ça s'est arrêté pour les avantages ou les désavantages, je ne sais pas, mais ça n'existe plus comme ça. Et donc, pour moi, Helga a vraiment brisé la société allemande qui était très étroite dans les années 60-70. Et... je trouve ça très intéressant, mais aussi je vois les limites. Et aussi, ça c'est la première chose que je voulais dire, que je vois très bien la génération après-guerre dont, avec ses possibilités et ses limites dans ces films de Helga. Mais deuxièmement, je voulais dire que le contexte, enfin, ces films, comment vous l'avez dit, von wegen Schicksal, si c'est ça le destin en français, mit starrem Blick aufs Geld. C'est quoi en français? Vous avez deux titres là, j'ai entendu, vous avez
avec
changé.
Avec un intérêt obstiné pour l'argent.
Oui. Et aussi Gottes Seel. Là, on voit vraiment la figure féminine, or the female figure, dans l'histoire politique aussi et culturelle allemande. C'est, par exemple, The fall of the left, le changement, la chute de la gauche dans les années 70-80. Ouh, j'y arrive. Et après, c'est l'ère Kohl, Helmut Kohl, avec le film sur sa sœur, le modèle, le mannequin. Et après, bien sûr, c'est les années après la chute du mur. Et le contexte, vous savez, c'est quelque chose dont on ne parle pas en Allemagne. Parce que on a cette idée que l'Allemagne, après la guerre, était comme une tabula rasa, sans histoire, sans contexte. Et aussi, on est tous égaux dans cette société. Il n'y a pas de classe. Ça a à voir avec la guerre, mais aussi avec l'Allemagne de l'Est et l'Ouest. Nous, on n'a pas de classe, on est tous égaux. Bien sûr, ce n'est pas vrai, mais on n'en parle pas. Donc, le contexte que j'ai eu le plaisir de connaître pendant mes études en Angleterre postcoloniale, ça n'existe pas en Allemagne. Mais et aujourd'hui, là, il y avait un article de Ito Steyer, vous connaissez l'artiste, qui a décrit un article dans la Zeit, c'est un magazine, un journal très très important, sur la documenta de cette année, sur ça, que le contexte ist König außer in Deutschland, le contexte est le roi sauf en Allemagne. Mais si je vois les films de Helga, je vois exactement, ah, ça c'est le contexte Schmitt, ça c'est le contexte Kohl, et ça c'est après, c'est Schröder, ou je ne sais pas qui. Et ça aussi, c'est possible seulement parce que Helga avait un sens pour les problèmes contemporains fins et détaillés et exacts.
Dans d'autres films où on l'aperçoit, par exemple sur Les femmes et la guerre, on la voit à un moment ou deux, notamment en Bosnie-Herzégovine, lors des manifestations des Black Women qui ont protesté contre le massacre de Srebrenica. On la voit, elle pleure, hein. Elle est en empathie totale avec les femmes qu'elle rencontre. Donc c'est à la fois une grande intelligence, mais aussi une très grande sensibilité.
Et si je peux rebondir sur ce que tu dis, Jackie, je vais me faire la porte-parole de Sophie maintenant, qui aurait aimé donner peut-être son point de vue sur la Helga qu'elle a rencontrée, connue, côtoyée dans le travail, et qui décrit assez bien ce que tu dis sur cette notion d'empathie et de compassion. Donc je vais prononcer les mots de Sophie que j'ai retranscrits. Donc voilà, elle fait le portrait d'Helga en disant « La meilleure façon pour moi de vous décrire Helga, c'est de raconter notre première rencontre. Je passais de la musique dans une fête chez un ami. Je lance un morceau de rock et une femme de 20 ans, mon aînée, arrive sur la piste et danse avec une telle énergie, une telle élégance que je demande tout de suite à mon ami « Qui ?» et cette femme au mouvement harmonieux. Il me dit, c'est Helga Reidemeister. Je suis sous le choc. Je connais ses films, c'est quelqu'un d'important pour moi. C'est une personne qui a permis de donner une visibilité aux femmes, de leur donner une place dans la société allemande et dans son contexte. Je fais alors quelque chose que je ne fais jamais d'habitude. Je vais la voir, je lui dis que je suis enchantée de la rencontrer et je lui dis que je suis chef opératrice. On a beaucoup discuté ce soir-là, et elle m'a rapidement contactée pour le film Gotetzel. Si je devais décrire Helga en quelques mots, je la décrirais comme une femme extrêmement généreuse, débordante d'énergie, à la mémoire incroyable. Elle gardait un souvenir très précis de tout ce que les gens lui racontaient, ce qui démontre une immense capacité de concentration et d'attention. Et elle ajoute « Quand j'ai rencontré Helga, elle avait déjà perdu sa fille et j'ai comme la certitude que cette énergie qu'elle avait était liée à une manière à elle de combattre cette tristesse. » Et donc voilà, après cette description très vivante et du point de vue de Sophie sur Helga, je peux peut-être encore te laisser potentiellement parler du contexte allemand parce que tu voulais peut-être resituer un peu plus le contexte politique dans lequel Helga fait ses films, ou sinon je
ne sais pas si les gens ici ont vu les films, et c'est mieux de voir les extraits d'abord parce que comme ça que tu peux faire la relation
d'accord
entre ce que je dis et le film.
Alors je pense que je vais juste ajouter quelques précisions biographiques pour les personnes qui n'ont pas encore vu les films ou entendu les paroles qui ont eu lieu cette semaine. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir dans la petite biographie d'Helga, longue biographie d'Helga, c'est qu'elle a d'abord été formée aux Beaux-Arts, elle a ensuite, elle s'est réorientée, elle a fait, je pense, 2 ans en tant que restauratrice d'art, elle s'est réorientée par conviction politique avec le mouvement étudiant de la fin des années 60, elle a décidé de devenir assistante sociale. Et elle va travailler dans un quartier qui est un quartier de Berlin-Ouest, qui est un grand ensemble tout neuf, qui vient d'être construit, qui s'appelle le Märkischviertel. Je suis désolée pour mon accent allemand, mais tu pourras le dire correctement, Max. Dans le Märkischviertel, elle est assistante sociale, elle rencontre des gens, et elle réalise aussi progressivement à la rencontre, au contact de ces gens, que avec le mouvement étudiant très politisé, ils sont tous en train de parler du prolétariat, et en fait le prolétariat qui est souvent imaginé, ce sont souvent des ouvriers très qualifiés qui sortent d'usine, et c'est pas forcément les gens qu'elle rencontre sur le terrain au Märkischviertel, parce qu'elle rencontre des femmes, des familles qui sont souvent peu représentées. Et donc on va lancer le premier extrait, qui est un extrait du Rêve acheté. Je ne vous en dis pas plus, comme ça on en parle après, mais c'est son premier film. Et c'est un film qu'elle a réalisé sur 3 ans pendant ses études de cinéma, parce que justement elle a été assistante sociale et elle a décidé, pendant qu'elle était assistante sociale, de se former au cinéma en croyant que le cinéma pouvait quelque chose. Donc on va lancer l'extrait et après on rediscute.
C'était le format Instagram, là, à la fin. Je peux dire 2 petits mots
oui,
pour, avant de passer la parole à Maxa. C'est que quand j'ai associé les Françaises et les Allemandes pour leur rencontre historique, le mouvement féministe était déjà assez fort en Europe, aux États-Unis, mais aussi beaucoup en Europe et en France. Et un slogan était très, très important à l'époque, le privé est politique. Je crois que justement là, on en a tout à fait un exemple. Un exemple du travail qu'a fait Helga, d'aller vers quelque chose qui est hors cadre de la société, c'est-à-dire la vie domestique. Et la vie domestique, c'est du travail, c'est de l'économie, c'est de l'énergie, c'est du partage des tâches. Et juste un deuxième rajout par rapport à l'époque de l'après-guerre, c'est qu'il y a eu une injonction vers les femmes pour qu'elles restent au foyer, qu'elles ne fassent pas donc profession, qu'elles n'étudient pas et qu'elles ne deviennent pas économiquement libres. Donc le mouvement féministe a eu beaucoup de travail à ce moment-là.
Oui, on va voir le destin aussi. Hein? Oui, parce que ce film est avant le destin, bien sûr. Et je crois que c'est le mariage parfait entre ce qu'elle a fait avant, la peinture, l'art, et le travail d'assistante sociale. C'est ça, ces films. C'est le mariage entre les deux. Et donc, il y avait beaucoup de jeunes gens de la gauche et aussi des étudiants du film qui s'est intéressé au Märkischviertel, tu as dit très bien, Märkischviertel, qui est vraiment le cliché des Plattenbau, tu vois, Plattenbau.
Les gratte-ciels.
Estates.
HLM.
C'est des HLM.
HLM.
Des immeubles collectifs de l'État, du gouvernement.
Mm-hmm. Et donc, il y avait non seulement les jeunes de la gauche politique qui voulaient se unifier avec les ouvriers, mais aussi des étudiants du cinéma qui ont fait des projets là-bas. Et bien sûr, très vite, ils ont trouvé que, en fait, c'est pas si facile. On peut pas faire le cinéma sur les vies des gens là. Mais déjà, Irène, la protagoniste du Le Destin, faisait ses propres films à cette époque-là de le Rêve acheté, avec sa propre Super 8, caméra Super 8. Et voilà. C'est ça le début, par hasard, de faire ce film qui, après quelques temps, va nous amener à l'œuvre spéciale et importante d'Helga.
Merci beaucoup, Maxa. Et si je peux donner quelques précisions sur le Märkisches Viertel. Donc, comme tu dis, il y a énormément de personnes qui s'y sont intéressées parce qu'au début, donc je pense vers 1962, il était considéré comme un modèle de construction moderne dans la presse spécialisée. Et puis, il s'est rapidement avéré qu'une grande partie des infrastructures nécessaires à l'habitat n'avaient pas été prises en compte lors de la planification. Et donc, par exemple, au départ, il n'y avait aucune aire de jeu ni de centre de jeunesse, alors qu'il y avait 30 000, que sur les 30 000 locataires, plus de 11 000 étaient âgés de moins de 22 ans. Donc, il y avait énormément de jeunes et très peu d'infrastructures pour les enfants ou les jeunes gens. Ça, c'était la situation en mars 1970. Et donc, effectivement, il y a eu des réflexions critiques qui ont commencé à s'exprimer et il y a eu des manifestations du mouvement étudiant qui a donné lieu aussi à une exposition qui avait été organisée par un collectif psychologie sociale et politique. Je dis les mots en français parce qu'en allemand j'y arriverai moins bien. Et en fait, voilà, il y a eu toute une sorte de médiatisation autour du Märkisches Viertel qui a amené aussi des cinéastes ou des jeunes cinéastes, des étudiants en cinéma de la DFFB à venir filmer dans le quartier. Et c'est vrai que ce qui est particulier dans le travail d'Helga, c'est qu'elle était déjà assistante sociale. Elle n'était pas forcément cinéaste quand elle est arrivée sur les lieux. Et en fait, elle a rencontré des gens qui étaient des habitantes et des habitants et qui... parfois, se sont un peu plaints de la manière dont les cinéastes faisaient les films, parce qu'ils disaient à Helga, ils font des films sur nous, mais ils ne font pas des films avec nous. Et c'est peut-être là une des forces des films d'Helga, c'est d'avoir, je pense, entendu cette parole et de l'avoir prise au sérieux. Et en fait, elle a, pour Le Rêve Acheté, elle a... d'abord tendu une caméra, puis au total trois caméras à la famille Brüder qu'on voit dans le film. Et en fait, elle leur a dit, si vous voulez, vous représentez vous-même. Et c'est peut-être là toute la force du film, même si après, ils ont réalisé ensemble que en regardant les rushs avec la famille, avec les parents, donc Irène et Gunther Brüder, quand ils ont regardé les rushs ensemble, souvent Irène et Gunther ont dit à Helga, on ne retrouve pas nos problèmes principaux, les points sensibles, on n'arrive pas, nous, à les filmer. Et c'est là où Helga a décidé de faire sa formation en cinéma à la DFFB, de prendre la caméra et de filmer avec eux. Et donc le montage du Rêve Acheté est très particulier parce que c'est un montage qui mêle les images produites par la famille elle-même et les images qu'Helga a produites lors de ses études à la DFFB. Et donc c'est un dispositif qui est très particulier et elle en utilise un autre pour le film suivant qu'elle tourne également dans le Märkisches Viertel avec une autre femme. Et peut-être que là, toi, Maxa ou Jackie, vous aviez des choses à dire sur Si c'est ça le destin, qui est quand même un film très important dans la filmographie d'Helga.
Peut-être avant d'enchaîner sur le Si c'est ça le destin, pour terminer sur ce premier film, Le Rêve Acheté, dans le titre en français, je ne sais pas en allemand, il y a le mot acheté. En fait, on est dans une période où on pousse les gens à être des consommateurs. Ces gens qu'on appelle les prolétaires n'ont pas financièrement les moyens d'être des consommateurs. Et pourtant, le père de famille va s'acheter une super Mercedes qui va passer son temps à nettoyer, à briquer, à faire briller, comme d'ailleurs dans l'enceinte de la maison. Lui aussi, il fait le ménage. Il est absolument obsédé par la propreté, parce que c'est une forme de fierté et c'est là où sa fierté se situe. Donc ce sont des films qui sont pour moi éminemment politiques parce qu'on voit à travers des gestes quotidiens du quotidien la société entrer dans la maison. C'est pas privé ce qui se passe à l'intérieur, c'est vraiment la société qui pénètre dans le foyer, dans l'intimité des gens. Je voudrais faire juste une référence avec Chantal Akerman et le film Jeanne Dielman. parce qu'elle a mis en scène exactement ce propos. Dans Jeanne Dielman, qui est interprétée par Delphine Seyrig, si vous avez pu voir le film, on assiste à la vie quotidienne d'une femme dans son intérieur. Alors, il y a une particularité dans la vie de cette femme, mais si vous n'avez pas vu le film, il faut aller le voir. Je ne vous la raconterai pas. Mais à un moment, on assiste, par exemple, à une longue séance où elle épluche les pommes de terre. Ça dure en temps réel presque 5 minutes. C'est long au cinéma, 5 minutes d'épluchage de pommes de terre. Ça, c'était la grande révolution quand le film est sorti en France, parce que tout d'un coup, on s'est aperçu qu'elle a inversé la hiérarchie des images. D'habitude, Delphine Seyrig, c'est glamour, c'est une très belle femme qu'on désire, que les hommes regardent avec justement désir et sensualité. Et là, pas du tout. Elle est chez elle, elle épluche les pommes de terre. C'est ça l'image majeure du film. Donc il y a vraiment une inversion de la hiérarchie des images. Et je trouve que c'est tout à fait une période où on peut croiser. Peu de Françaises ont fait ça, quelques-unes comme aussi Carole Roussopoulos, qui ne se prétendait pas cinéaste, mais qui l'était, qui se prétendait plutôt vidéaste, parce qu'elle, elle avait mis sa caméra, un peu comme Helga, au service des protagonistes, des sujets, des gens qu'elle interviewait, et elle se prétendait écrivaine publique. C'est-à-dire, elle écrivait avec des images la vie des gens. C'est un peu ce que fait Helga.
Mais tu disais Chantal Ackerman, qui est Bruxelles, Jean Dielman, c'est un film qui se passe à l'intérieur seulement, et aussi le destin se passe à l'intérieur. Et je voulais dire que l'échec des étudiants de faire des vrais films sur le destin ou la vie des ouvriers n'est pas seulement un problème social, mental, psychologique. Le problème, ce n'est pas seulement qu'ils ne peuvent pas s'imaginer la vraie vie des ouvriers, c'est aussi par les problèmes de permis de filmer. Il y a un long texte de Helga dans Frauen im Film, de ce magazine que Jackie a parlé, où elle dit les problèmes de filmer cette vie à l'extérieur, à s'arrêter là. Surtout s'ils voulaient filmer les institutions, soit le travail, soit l'école, soit les... les orphelinats. Et vraiment, je n'ai pas cru ce que je lis sur ce texte dans Frauen im Film. Il y avait quelqu'un qui a perdu son travail parce qu'il a vraiment voulu filmer son travail. Il a perdu son travail. Et ce petit garçon a eu des problèmes, des grands problèmes avec cette école. Donc, elle n'a pas pu filmer à l'extérieur. Donc là aussi, c'est une des raisons pourquoi elle a filmé dans la maison seulement. Pour Chantal Ackerman, certainement, c'était aussi d'autres raisons. Mais ça me revient, pour moi, c'est un grand thème, l'intérieur, dans l'œuvre Helga, vu qu'elle est la deuxième génération qui a fait des études de film à Berlin. Avant elle, il n'y avait que Helga Zander qui a fait une classe pour femmes juste un an avant, et à Ulm. Et à Ulm aussi, Stöckel était à Ulm. Et c'est intéressant, à Ulm, il y avait cette tradition des femmes dans les études artistiques à cause du Bauhaus, parce que le Bauhaus était à Ulm aussi. Mais je veux dire, l'intérieur, c'est bien sûr... Le personnel est politique, ça a des raisons féministes, mais aussi des raisons restrictives au niveau de l'État.
Et si maintenant on avance un peu pour montrer d'autres extraits, on passe à Si c'est ça le destin. Juste vous dire que c'est le film des fins d'études d'Helga Reidemeister et qu'elle a tourné vraiment en collaboration avec la personne dans le film, Irène Rakovitz, qui est mère de 4 enfants, divorcée après 20 ans de mariage, en situation d'invalidité. Et Et oui, je vous en dis pas plus, on va regarder l'extrait, parce que dans ce film, la première scène que nous allons voir, qui est l'introduction, montre tout à fait à la fois le dispositif et les enjeux du film. Donc on passe au deuxième extrait. Et donc la femme que vous voyez à l'écran qui vous parle et qui fume sa cigarette en regardant les rushs, c'est Irène Rakovitz. Et le film est assez particulier dans le dispositif, étant donné que Helga Rademeister filme les enfants d'Irène. Irène voit les rushs où ses enfants parlent d'elle, et donc c'est en fait une forme de circulation de la parole qui ne se passe que grâce ou à cause, ça dépend de comment vous le voyez, du cinéma. Et donc Helga Rademeister avait dit qu'elle ferait tout voir à Irène et que son film, Irène, pouvait l'interdire si elle n'était pas d'accord avec ce qui s'y passait. Mais rétrospectivement, elle avouait aussi qu'en fait, elle ne pouvait pas vraiment se permettre qu'Irène interdise son film parce que c'était son film de fin d'études et que tout le budget de son diplôme y était consacré. Et donc elle raconte qu'avant le tournage, elles étaient allées à la campagne et qu'elles avaient il y avait un grand lit double et elle avait mis le magnétophone entre Irène et elle et qu'elles avaient discuté toute la nuit et qu'Helga avait noté tout ce que Irène lui avait raconté et qu'après elle avait donné ses écrits à Irène pour que Irène vérifie. Et elle disait, j'essayais de donner à Irène le plus de contrôle possible afin qu'Irène valide le film, à la fois pour que son film de fin d'études puisse exister, mais aussi pour une raison qui est assez forte et qui représente beaucoup du cinéma d'Helga, c'est qu'elle disait cette codécision, je voulais cette codécision, car je voulais aussi me libérer de la pression d'exploiter Irène, car à l'époque on disait, vous allez quelque part, vous mettez la caméra, et ensuite vous exploitez les gens, vous les traitez selon votre bon vouloir. Et c'est de cela dont je voulais me protéger. Donc voilà, je sais que Maxette a beaucoup à dire sur le film et certainement Jackie aussi, donc je vous laisse en discuter.
Tu veux que je commence ?
Oui. Alors, bon, les deux films, évidemment, sont très forts, chacun apportant un élément d'analyse qui est quand même assez extraordinaire. C'est que ces gens qui nous offrent leur réflexion, qui nous donnent leur intimité, sont d'une très grande intelligence et d'un sens politique incroyable. Dans le premier film, Le rêve acheté, on voit bien que c'est la course à la consommation et que l'économie ne va pas suivre et que ça va les mettre dans des positions d'être endettés et donc d'être dans des conflits intérieurs à la famille à cause aussi de la situation économique. Dans le premier film également, il y a quelque chose que je voudrais pointer et qu'on retrouve dans « Si c'est ça le destin », c'est comment les difficultés se reproduisent d'une génération à l'autre. C'est-à-dire que dans le premier film, le père a connu la délinquance, il s'est marié, d'une certaine façon, il a progressé dans sa vie personnelle, il a construit une famille, mais tout n'est pas résolu puisque son fils est devenu, lui, à son tour, délinquant. Et donc, il y a une espèce d'héritage presque fatidique, presque incontournable, qu'on appelle la reproduction. Et là, je vais faire un petit détour par Bourdieu, puisque c'est un grand sociologue français qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La reproduction », qui est sorti dans ces mêmes années, d'ailleurs, et qui analyse très bien comment une société a changé complètement de paradigme. Avant, nos parents faisaient des mariages arrangés, on va dire ça comme ça. Et le mariage était une façon pour la famille de passer un cap et d'essayer de progresser socialement. Et puis ça a été éliminé après-guerre au profit de l'éducation. Et c'est l'éducation qui a pris le relais, et on appelle ça en France l'ascenseur social, c'est-à-dire monter dans la hiérarchie des classes sociales par l'éducation. Or, dans cette famille et dans la famille d'Irène, ça ne fonctionne pas. Parce que, justement, ils n'ont pas eu accès normalement à l'éducation. Dans le rêve acheté, le fils est tout de suite mis dans une école pour enfants en difficulté, et ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire qu'il est avec d'autres enfants très moyens et il n'apprend pas. Et donc, d'une certaine façon, la reproduction se fait par l'école et les classes sociales sont très étanches. C'est ce qu'on voit dans l'analyse. Elle le dit très bien, la mère. Elle dit, quand on rentre dans une famille, c'est la société qu'on voit. Elle le dit. Elle est très, très politique, cette femme. Voilà. Donc, je voulais dire qu'ils sont intelligents. Hein.
Oui, pour moi, je me demande, est-ce que c'est qu'un film féministe qui a pu faire ce que ce film a fait? Ce film a partagé, brisé le mouvement, le discours gauche sur le cinéma en Allemagne, parce qu'il a, il a été montré...
99.
Je pense que c'était 1979.
79. Oui. 79. À Duisburg. Et Duisburg, c'est un festival du film documentaire très connu en Allemagne. Et là-bas, il y avait Hahnenkamp et Kreimer. Deux mecs, bien sûr, des mecs. Deux Klaus. Klaus Hahnenmeier, Klaus Kreimer et Hahnenkamp. Et le plus âgé, il était convaincu que le film, le cinéma direct, va te montrer la réalité. Et Kreimeier était plus jeune, il a dit non, non, le film documentaire est aussi construit. Il a pris ce film de Helga comme exemple. Et donc, il y avait, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est un peu les générations et aussi l'histoire du film documentaire change là. Le discours aussi, ça change. La théorie aussi, ça change là. Un grand débat, des articles et tout. Et donc, ça s'appelle le Kreimeier-Hahnenkamp débat. Et c'est vraiment le moment où le film documentaire post-moderne est né. Et je me demande, est-ce qu'il a fallu un film d'une femme? Et je crois que oui. Je crois que oui. Je crois qu'aucun homme a pu faire produire cette intimité dans la famille pour les raisons féministes, pour les raisons de l'État, ce que j'avais dit. Mais aussi, si tu lis les critiques sur le film des critiques hommes, de male critics, non, on ne peut pas faire ça, c'est privé, c'est intime. Exactement le contraire de le personnel et politique. Et en fait, je suis très fière de ce film. Je suis très fière que c'était une femme qui a parlé que de la famille et qui a vraiment brisé ce débat, ce canon discursif male. Et c'est très, très spécial. Et voilà, c'est...
On appelle aujourd'hui le film Elguez, mais c'est vrai que les femmes ont été les premières à s'intéresser à cette intimité qui est éminemment politique. Donc elles ont cassé les barrières, les frontières entre le privé et le collectif, l'intimité et le politique. Et je crois que, alors là j'ai encore attaqué un certain nombre de grands festivals, je crois que les sélectionneurs des grands festivals internationaux ne voyaient pas ce cinéma. Ils étaient incapables de le recevoir. Pour eux, c'était vraiment pas du cinéma. Or, aujourd'hui, évidemment, on le revendique. C'est un cinéma éminemment puissant. Et la preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, il est d'une grande actualité.
Et voilà, voilà, c'est ça ce que je voulais dire aussi. C'est toujours...
Il n'a pas vieilli. Oh non, pas du
tout. Et c'est vrai que là, l'extrait que vous avez vu montre bien le dispositif et les enjeux, mais peut-être que... Ce que vous ne pouvez pas, pour le moment, appréhender en trois minutes d'introduction, c'est que c'est vrai que dans la façon dont la relation se tisse entre Helga, Irène et ses enfants, il y a quelque chose de très particulier, en sens où Irène se livre beaucoup à Helga, les enfants réussissent à avoir une parole qui est très franche et très violente avec Helga, cette parole franche et violente des enfants avec Helga est retransmise à Irène. On voit les réactions d'Irène. Et donc tout ça, en fait, dans le débat que Max a décrit, c'était quelque chose aussi de l'ordre de est-ce que le cinéma doit intervenir de cette manière ? Est-ce que c'est pas un manque de pudeur ou aussi un manque de... Je sais pas comment dire, mais... Est-ce qu'on doit d'abord exposer ces enjeux familiaux, mais aussi est-ce qu'on doit vraiment intervenir avec le cinéma ? Parce que là, c'est une intervention. Et donc oui, il y a eu des critiques de ce film. Et le film, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de le voir parce qu'il est très percutant. Et moi-même, de le voir sur grand écran cette semaine, ça a été un double choc. Il passe mercredi soir. et donc oui, en fait, là dans ce film, quand on pense au titre de la de cette discussion qui s'appelle Provoquer la parole, l'idée de provoquer est vraiment là, en sens où Helga pose des questions, va souvent toucher à des endroits où c'est complexe et où c'est difficile de formuler quelque chose et la parole advient quand même, mais ce n'est pas non plus sans difficulté, sans douleur, sans impact.
Il y a un thème qui est abordé pour compléter sur la famille et l'intérieur, c'est ce degré de violence aussi dans les rapports. Alors évidemment aujourd'hui on a plus de facilité de parler de la violence à l'intérieur des familles ou de la violence conjugale, pas que d'ailleurs, mais là on sent bien qu'il y a des rapports qui sont très tendus et qui peuvent être à la limite assez violents. Et donc c'est pour moi évident que c'est un cinéma extrêmement essentiel, révélateur et qui ouvre complètement des secteurs interdits par la caméra. Et grâce à la possibilité qu'ont les femmes cinéastes d'être dans cette empathie avec l'intimité et le privé, on arrive à accéder à des espaces comme en Afghanistan, par exemple, puisqu'elle a travaillé aussi en Afghanistan, Helga. Elle a eu accès à des témoignages très, très forts.
Et peut-être pour avancer un petit peu, parce qu'après on pourra aussi vous laisser poser des questions, mais en parlant justement d'endroits où Helga et son équipe réussissent à entrer et à créer des relations de confiance, on peut effectivement penser au film Gotthard, celle qui se passe dans une prison, où Sophie Martigneux, donc, qui devait être avec nous ce soir, a fait l'image et elle m'a laissé donc son témoignage. Si vous voulez, en fait, peut-être qu'on va passer un premier extrait pour que vous puissiez voir, et après je vous donnerai des éléments pour Gotthard, parce que là aussi ça a été la parole dans Gotthard est très importante, très dure, et les relations de confiance qui ont été établies avec les femmes qui sont filmées n'ont pas forcément été évidentes, et ça Sophie le raconte bien dans son témoignage. Donc on va lancer le premier extrait de Gotthard, s'il te plaît. Et donc je vais vous lire le témoignage de Sophie qui raconte un peu la genèse du film. Donc Helga avait été contactée par la directrice de la prison pour faire un film sur ce lieu. On ne voit pas la directrice dans le film, il y a une femme qui fait partie de l'institution qu'on pourrait croire être la directrice, mais c'est la surveillante générale. La directrice avec qui on est allé discuter proposait de faire un film qui aborderait cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour une femme d'être en prison ? Helga a toujours eu du mal à trouver les financements pour ses films. L'équipe avait un salaire dérisoire, dormait dans un minuscule hôtel et mangeait tous les soirs dans le même restaurant grec. Avec Helga, nous avions une sensibilité politique similaire. Je ne peux pas décrire Helga sans dire qu'elle était une féministe et une cinéaste engagée et politique qui portait un regard critique sur les phénomènes, les structures de société. Helga se posait la question « Qui dicte les structures ?» Et dans Gotthard, on voit qu'à leur manière, qui est terrible, Marion, Petra et Nicole dérèglent le patriarcat. Quand Nicole dit qu'elle a mis le feu à la voiture de son père, c'est un geste symbolique qui attaque directement cet objet sacré. Gotezel a été tourné en 16 mm. Nous étions quatre, Elga, l'ingé son, une assistante opératrice qui était étudiante avec Elga et moi. Nous tournions avec des optiques fixes et c'est moi qui faisais le point. La direction, la surveillante générale et une des gardiennes assez âgées qui apparaît dans le film étaient d'accord avec le projet. Mais pour le reste, nous étions accueillis avec beaucoup de réticence. Nous n'avions pas de clé, nous passions parfois des heures enfermés dans les couloirs. Nous avions une pièce pour laisser notre matériel et l'assistante était principalement présente sur le tournage pour être dans cette pièce et recevoir et préparer les magasins. Je rappelle que nous avions 11 minutes par magasin, ce qui implique une manière très différente de tourner. Quand l'équipe est arrivée, Elga était déjà sur place. Elle avait commencé le repérage. Le soir, nous étions dans ce petit restaurant grec et elle nous annonce qu'aucune femme ne veut participer au film. Nous discutons et après réflexion, nous décidons de rester quand même encore quelques jours, voir si quelque chose advient. Tous les jours, nous entrions dans la prison avec le matériel à la main. Nous avions construit un petit meuble à roulettes avec des compartiments pour les pellicules, les objectifs, que nous avions appelés Fifi. Donc on se promenait dans la prison avec la caméra, les micros et Fifi à la recherche de quelque chose. On y a passé beaucoup de temps, sans tourner. Le premier contact a été possible durant la pause, dans la cour. J'étais la seule à fumer et les femmes venaient me voir pour me demander une cigarette. On fumait ensemble. Les relations ont mis plus ou moins longtemps à se tisser. Il y a eu 3 blocs de tournage. Un en novembre-décembre, le deuxième en mars-avril, le troisième en été. Il s'agissait donc d'attendre, d'être patiente et à l'écoute. Il fallait construire une relation de confiance et l'énorme qualité d'Elga était d'en être capable, d'avoir une grande compassion pour les personnes qu'on rencontrait et qu'on côtoyait. D'ailleurs, pour elle, il n'était pas envisageable de filmer quelqu'un qu'elle n'aimait pas. J'avais déjà tourné plusieurs films de cinéma, j'avais fait des reportages, mais c'était ma première expérience de cinéma documentaire. Et ça me faisait peur, car je savais ce que cela impliquait. Je ne pouvais pas seulement être chef opératrice. Il fallait que je sois moi, Sophie, et que je donne de moi. J'ai beaucoup appris dans le travail avec Elga, notamment avec le visionnage de Rush, que nous faisions ensemble et qui était compris dans le travail. On discutait des prises de vue. On se demandait qu'est-ce qu'on cherche. Il s'agissait pour nous de faire le portrait de femmes, mais aussi d'un lieu, et de voir les interactions entre ce lieu et ces femmes. Comment vit-on dans une cellule ? Comment vit-on dans un lieu fait de règles en permanence ? Il s'agissait d'essayer de saisir quelque chose de l'institution. On cherchait aussi dans ce lieu des images qui pouvaient raconter quelque chose des personnages. Et le témoignage continue, mais peut-être que je peux vous laisser, Jackie et Maxa, rebondir si vous avez des éléments pour Gotezel.
Oui, d'abord, je voulais dire juste les titres. En allemand, ils sont beaucoup plus charmants et rigolos qu'en français. Gotezel, vous savez ce que c'est ? Gotezel, la cellule de Dieu, mais parce que ça, c'était un couvent, en fait, avant. Oui, je trouve ça marrant. Et aussi le destin, von wegen Schicksal, c'est un citat.
A quote.
Citation du père qui dit oh, c'est notre destin, le divorce, c'est notre destin.
Le karma.
Le karma, et oui. Et voilà, et Elga, Irène, elle dit bon, bah, destin. C'est comme ça, von wegen Schicksal, bon, bah, destin. C'est ça, plutôt. Oui. Et quand tu sais, voilà, c'est la cellule de Dieu. Oui, c'est dommage que Sophie ne soit pas là parce que, en fait, ça m'étonne, elle a eu peur du documentaire parce que Sophie est quelqu'un, elle devient invisible avec la caméra et c'est elle qui puisse faire des documentaires incroyables, tellement proches au protagoniste. C'est vraiment magique, c'est vraiment un travail magique ce qu'elle fait, mais aussi le montage était difficile parce que par exemple Elga, bien sûr il y avait des situations, elle a pas dû montrer, par exemple, le travail forcé pour les firmes. Les femmes travaillent pour les firmes commerciales, mais montrer ça au cinéma, c'était interdit. Il y avait des problèmes. Et aussi le montage, donc ça, elle n'a pas pu montrer. Et le montage, c'était comment montrer les femmes, une ouverte qui parle de son crime ouvertement, et l'autre, celle-là, elle s'appelle comment, la mère qui a tué son mari?
Petra.
Petra, elle est un peu plus fermée, introvertie. Comment faire le montage entre les deux, parce que Petra, elle a l'air, elle cache quelque chose. Si tu montres une autre personne plus ouverte avant elle. Donc ça, c'était aussi un problème. Mais je voulais juste dire, sur le plan juridique, c'est incroyable à ce temps-là, et peut-être encore aujourd'hui, l'explication des hommes pour les crimes des femmes. Ça a l'air vraiment, il y avait tout un dossier là-dessus, de Helga, ça fait vraiment 19e siècle. Ça fait vraiment Freud, salpêtre, hystérie. Non, c'est vraiment. J'étais choquée. C'était dans mon pays, il y a quand même pas 25 ans. Les femmes sont plus criminelles pour les raisons sexuelles, hormonelles. Et non, c'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant. Et il faut s'imaginer. Helga fait un film dans ce temps-là. Ça veut dire quelque chose. Les femmes, elles sont en prison aussi pour les raisons pas justes. Parce que, par exemple, en Allemagne, s'il y a la différence entre le barbuche, je crois, le barbuche, comment ça s'appelle? J'ai regardé sur le Google truc. Attends. Grabuche. Tu vois ce que c'est?
C'est quoi comme crime?
Grabuche, je sais. Ok, si tu tues quelqu'un, oui, t'es un meurtre. Oui. Et si tu bats quelqu'un et à la fin elle meurt, c'est quoi?
C'est pas un meurtre.
C'est pas un meurtre.
Ah, d'accord.
Non, parce que c'était pas ton plan de faire ça. C'est passé comme
c'est
ça, désolé.
En conséquence dans notre crime, en fait.
Voilà. Mais si un mec tue une femme en la battant, c'est moins de prison, c'est moins grave comme un meurtre.
Ouais.
Mais une femme ne peut pas faire ça, tu vois. Donc je ne peux même pas parler là-dessus parce que c'est trop dur. Donc si un mari bat sa femme tout le temps, et tout d'un coup elle meurt, il reçoit moins de prison pour ça. Mais si une femme tue son mari, par exemple, à l'arrière, ça veut dire insidieux. C'est quoi en français? Yeah. C'est plus de crime. Mais une femme.
C'est plus grave. C'est considéré comme une plus grave faute.
Oui, parce que c'est pas direct, c'est pas honnête, je sais pas. Mais une femme, c'est la seule solution pour elle. Hein, pour une femme. Voilà.
Il y a deux justices alors.
Il y a deux justices. Oui. C'est incroyable, il y a aussi des avocats, Sabine Platt et Dagmar Oberlis, qui ont écrit là-dessus, et c'est vraiment choquant, je suis sûre que c'est toujours comme ça, je suis sûre que ça n'a pas changé. Et aussi la question, il y a par région qu'une prison de femmes. Donc ça veut dire, si la mère, par exemple, et là on retourne au sujet de la famille.
Dans les enfants.
Oui. Ça fait trop longtemps pour visiter la mère, et souvent, si le mari part, la femme l'attend à la maison avec les enfants, non? Donc la famille reste intacte. Si la femme va en prison, qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants? Donc ça détruit la famille, et ça pose des questions quand la femme rentre dans la vie normale, parce que la famille n'existe plus. Et donc, c'est aussi pour moi la première fois que j'ai lu sur les problèmes-là. Je suis toujours choquée. On est tellement en arrière en Allemagne. Ce n'est pas moderne. Hein. Ce n'est pas un pays moderne.
Mais effectivement, c'est vrai que dans Gottesseel, on aborde ces sujets de manque de structures pénitentiaires et aussi d'aide psychologique, d'accompagnement pour les femmes détenues. Et on voit aussi, à travers les récits des détenues, qu'en fait, souvent, il y a des implications, comment dire, leur passé a été souvent fait d'abus, de violences répétées, et en fait, on comprend petit à petit que beaucoup de ces personnes ont elles-mêmes souffert de violences, et que c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, Jackie, quelque chose de l'ordre de la reproduction, mais qu'elles ont tellement souffert qu'elles ont aussi perpétué un acte de violence pour essayer de parfois s'en sortir, ou de quitter une situation qu'elle ne désirait plus.
Il y a une réalisatrice allemande que j'ai perdu de vue, je ne sais pas si elle existe toujours, Christina Pericioli. Elle avait fait un très beau film dont le titre était « Le silence des femmes fait le pouvoir des hommes ». C'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est-à-dire que le travail d'Elga, de donner la parole et aux femmes en prison et aux femmes dans leur foyer, c'est extrêmement essentiel.
Et tu disais tout à l'heure, par rapport au travail de Sophie, qu'elle avait cette capacité à être à la fois invisible au moment du tournage et en même temps très proche des personnes qu'elle filme. Et justement, elle me disait qu'elle avait beaucoup appris en tournant avec Elga, parce que Elga ne voulait pas d'utilisation de zoom. Et du coup, c'était toujours des focales fixes, mais les focales fixes impliquent que si on veut être proche de la personne qu'on filme, il faut faire le mouvement et s'approcher. Et elle disait que justement, la confiance qu'elle a réussi à développer avec les détenus, c'était une proximité qui était à la fois dans la discussion et qui a permis de faire émerger cette parole, mais c'était aussi une proximité physique, parce que pour les filmer, et je pense qu'on n'aura pas le temps de voir le deuxième extrait, mais on voit qu'elle est très près des visages, et souvent c'est des plans face caméra où les femmes regardent la caméra de Sophie droit dans les yeux, et comme ce qu'on a vu pour Petra, cette espèce de portrait. Et donc voilà, mais je pense que Elga réussit aussi toujours à travailler avec de petites équipes et à constituer des équipes avec des personnes à l'image et au son qui étaient des personnes de confiance et qui réussissaient avec Elga à obtenir la confiance des personnes qui étaient filmées. Et hier, on avait la présence de Lars Bartel qui nous racontait un peu plus, notamment sur le tournage de Mon cœur voit la vie en noir. Et ce qui est quand même assez extraordinaire dans ce tournage, c'est que il y a énormément de scènes qui se passent donc dans un Afghanistan dévasté par la guerre, où ni Elga ni Lars ne comprennent la langue. Il y a des scènes qui se passent vraiment dans le milieu familial, dans les intérieurs. Les femmes ne portent pas forcément le voile. Et en fait, Lars, même en tant qu'homme, a réussi à avoir la confiance de ces femmes qui se racontent des histoires très privées, des histoires d'amour, de secrets familiaux. Et en fait, on lui demandait, mais comment t'as réussi à te faire accepter ? Et il a dit, ce qu'on voyait chez moi, c'était pas forcément que j'étais un homme, on voyait que j'étais une caméra et que je pouvais recueillir quelque chose avec cette caméra. Et ce qui est assez fou aussi, c'est que même en ne comprenant pas la langue, Lars réussit à avoir une sensibilité qui fait que les images qu'il capte à certains moments, sans même avoir le contexte de la parole qu'il recueille, sont des images qui sont très puissantes. Et je pense qu'on peut finir avec cet extrait et après vous laisser la parole si vous avez des questions. Donc on va passer, Julie, non pas au deuxième extrait de Gottesseel, mais à l'extrait Mon cœur voit la vie en noir. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public, je pense qu'on va directement passer aux questions. Attendez, j'arrive.
Je suis ravie de découvrir Elga Reidelmeister. Je ne la savais pas. Et c'est regrettable qu'elle n'était pas connue ici, ou bien son engagement fantastique, parce que les femmes cinéastes sont méconnues ici. Plusieurs fois, on entend tel ou tel, et on court derrière. Moi, personnellement, je suis très pour le cinéma engagé féminin. Ça peut faire du bien, d'ailleurs, surtout dans nos temps qui sont vraiment tellement dangereux à se diviser, pas être à politiser comme ça devrait être, parce que tout ce qu'ils ont réussi, c'est rendre les femmes apolitiques. Hein, complètement. Je compare à la femme allemande d'abord, très proche de mes idées, très proche des idées qui sont concrètes, expressionnistes, valables, et avec une façon que je regarde ne pas être immigrée, commencer par là. La France me déçoit, voyez. Et ça, je le dis en face. Je faisais toutes les pensées que je voyais là. Je dis, mais pourquoi t'as pas pris l'allemand? Pourquoi t'as pas pris? Et il y avait toujours un empêchement, hein, parce que cette histoire de guerre qui a divisé cette Europe-là, ça fait que, ah, l'Allemagne, c'est les broches. Quand je suis arrivé en France, ça faisait ça. Bon, j'arrête là, et je regrette beaucoup, mais je vais foncer avant de connaître Helga, qui vraiment, en plus elle est contemporaine, en plus elle est vivante. Et il y a les DVD peut-être que je vais découvrir. Que vous dire, c'est fantastique, ça peut aider notre temps. J'ai rien à poser. Est-ce que le film, par exemple, sur l'Afghanistan est récent? Non, c'était avant que ça arrive les talibans de nouveau à attaquer, parce que elle se connaît pas, la femme. Je sais que c'est comme un objet dans les familles. Elle la sort très bien. Je sais qu'elle n'est pas heureuse avec lui. Elle est comme un objet. Elle a la ruse, le mec avec ses yeux, machin. L'enfant, je ne sais pas, sera une petite hystérique, là. Ça finira mal. Mais elle ressort ça dans ce film. Et il nous montre ça. Aux prisons, par exemple, aux prisons de femmes. Que c'était exactement ça. De culpabilité. Comment les hommes, par exemple, ils sont innocentés, et comment les femmes, elles sont toujours, toujours, toujours victimes ou bien coupables. Ça, c'est vrai. On les voit ici dans cette société française. C'est une honte. C'est une honte. Et c'est pas fini encore. Parce que plus ces guerres qui nous arrachent, la guerre capitaliste, c'est ça qui dénonce Helga. La société consommation. C'est ça que je voulais voir. Je suis très heureuse. Aujourd'hui, je dis, ah, je n'ai pas perdu mon après-midi, quoi. Il y a tellement de festivals dans Paris. Et on est entier, quand on sortira de ce documentaire, on dit, elle parle de nous, je parle de moi, ça parle de, je suis quelque part. Tu vois? Et on n'est pas seul. Et c'est ça qu'elle a réussi, ne pas être seule avec son public, avec les individus, avec les êtres. C'est ça, fantastique. Je ne sais pas si elle m'écoute, peut-être.
Je voulais juste dire, si vous avez cette vue, cette vision que l'Allemagne c'est super et tout ça.
Oui, je sais, il y a beaucoup
et
de.
Et vous allez apprendre l'allemand. Je veux dire une histoire. Nous, on a donné le prix à Helga en 2011.
Oui.
C'était pour toute une œuvre.
Oui, oui.
Pas pour un film seulement, un film.
L'ensemble de son œuvre.
Et c'était parce qu'on avait de l'argent d'une banque.
Oui.
On aurait 10 000, ok. Donc, l'année prochaine, on l'a donné à Heidi Honigmeister, qui est Honigmann, Honigmeister, Honigmann, aussi pour l'ensemble de son œuvre.
C'est ça.
Et l'an après, la banque a coupé l'argent et la directrice de l'époque a dit « Tant mieux, parce que c'est ça, il y en a plus ». Il y en a plus de femmes réalisateurs comme ça. Il n'y en a que deux en Allemagne. Je veux dire, c'est exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Que l'Allemagne, c'est plein des femmes comme ça. Hein.
Mais c'est du psychothérapie du groupe. Psychothérapie du groupe. Exactement ça. Tout ce qui rejette cette société-là, qui oblige la femme de se soumettre et faire de mauvais choix, c'est celle qu'il dénonce. C'est fantastique. Moi, j'ai vu toute une génération. C'est pas uniquement. Ça nous apprend sur nous-mêmes. Te raconte un peu. C'est ça qui empêche nos sociétés. Empêcher les gens de progresser sur eux-mêmes. Prendre conscience d'eux-mêmes, des autres et au-delà. Comment vous voulez qu'on avance? Croyez-moi, enfin. On vit dans une sorte, disons, hein, poste-ci, poste-là. Ça n'existe pas, ça. Il faut que chacun prenne en main sa vie, être reconnu. C'est ça. Bravo. Je suis d'être découvert quelque chose, je suis heureuse. Ça me plaît beaucoup. Voilà.
Et juste pour vous répondre sur le film afghan dont vous avez vu un extrait, il date de 2009. Et pour répondre aussi à autre chose, moi aussi je regrette de ne pas parler allemand.
Est-ce qu'on peut poser la question à Maxa de savoir comment Helga est reconnue en Allemagne ?
C'est une question de génération, peut-être.
Pas terrible.
Pas terrible maintenant. Non, non, non. Non, non.
Mieux von Trotta que Helga, hein, mm-hmm. Reidmeister. Oui. Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ?
Donc, il faut qu'on continue les festivals de films de femmes, parce que chaque année, on me demande, tu crois, c'est encore la peine ? Maintenant, ça a changé, les femmes font des films. Oui, mais quel genre de film ? Voilà, c'est un peu quand même un problème. Je ne critique pas hein, celles qui font des films. Je pense que celles qui voudraient faire des films plus politiques ne trouvent pas les moyens.
Oui, moi je voulais poser une question à Maxa justement à propos de ce film tourné par Helga en Afghanistan. Ce n'est pas le seul. Effectivement, vous avez dit, madame, c'est peut-être avant l'arrivée des talibans. Non, c'est après. En fait, l'amoureux, l'amant de la protagoniste, Hossein, qu'on voit à l'écran, il s'est engagé du côté des talibans, dans l'armée des talibans, mais il était forcé pour des raisons de sous, pour que la famille ne meure pas. Donc c'est après la première arrivée des talibans. Et moi, je voulais te demander... effectivement, de nous contextualiser un peu ce travail d'Helga sur l'Afghanistan. C'était quelque chose de très intéressant que tu nous avais fait savoir. À ton avis, ce film montre aussi quelques possibles limites du cinéma d'Helga. J'étais très intéressée à connaître ton avis là-dessus.
Oui, bien sûr, Helga a réussi très bien en Allemagne et dans les années 90, elle a poussé un peu, elle est allée en Serbie et Bosnie, mais avec son équipe et aussi ses proches de l'Allemagne. Et après, elle a encore poussé, elle est allée en Afghanistan et là, je trouve que son dispositif ne marche plus parce que, bah, je vais être un peu provocatif, hein, mais... vu que j'ai aussi vécu en Égypte après la Arab Spring, la révolution, dans les années où le Taliban arrivait, il y a beaucoup d'argent pour le West. Il vaille pour faire des films pro-démocratie. Et donc, cette histoire un peu Roméo et Juliette, et un peu pour moi ça, c'est très naïf, d'y aller et trouver cette couple qui ne peut pas... être réunis pour des raisons, c'est pas politique, c'est plutôt les raisons de classe, clan, et c'est très 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 dangereux. Aussi ce que Lars a dit, je sais pas sur, moi je propose que cette femme, elle s'appelle comment la
Shaima
se peut ouvrir, pas parce que c'est un camarade, parce que derrière cette camarade, c'est un homme qui pour elle n'est pas un homme dans le sens hiérarchique de son clan. Donc c'est plutôt cet homme de l'Ouest peut l'aider à ou s'exprimer ou l'aider. Et c'est pour ça qu'elle est ouverte. Mais Lars, quand il dit ça, je ne le connais pas, mais je suis un peu provocatif, Lars ne se contextualise soi-même. C'est ça le problème que ce que je disais au début, l'Allemagne ne peut pas se contextualiser et donc c'est facile pour, spécialement pour la génération de Helga, de transposer ses méthodes ailleurs.
Mais c'est ailleurs, une autre c'est... culture.
Après, par rapport à Lars, bon, je sais que c'est pas du tout les mêmes contextes, mais il a longtemps vécu en Inde. Il a eu une première épouse qui était indienne, et même en parlant de Texas Kaboul, par rapport aux images qu'il a tournées là-bas, il a lui-même une sorte distance qui vient après coup, parce que justement il trouve que c'est, il a un regard certainement occidental et très franc sur certains sur certaines situations, et du coup je pense que c'est quelqu'un qui réussissait à se remettre en question dans son point de vue occidental, mais après je parle pour lui et je veux pas le faire, donc
Oui, mais tu vois ce que j'ai appris, c'est que n'importe où tu habites, ce qui est important c'est la classe où tu habites. Donc il y a une classe middle class globale, moyenne en Inde, en Égypte, en Angleterre, ici, qui parle la même parole et qui se soutient. Et donc, tu peux bien vivre, je ne sais pas, au Sénégal ou en Inde, et tu ne comprends pas. Parce que tu es toujours dans cette classe moyenne globale. Donc, je veux dire que ce n'est pas parce que j'ai une femme d'Inde que je comprends. C'est très, très, très complexe et très douloureux aussi. Et donc, c'est très compliqué.
Est-ce qu'il y a encore une question? Parce qu'après, il va falloir faire une pause avant le film de 20h. Donc, si vous avez encore des questions...
Présenter peut-être le prochain film.
Oui, je peux présenter le prochain film. Oui.
Il est très intéressant.
Oui.
Justement, il me fait penser à une démarche qu'avait fait Colline Serrault pour son premier film. Colline Serrault avait fait un film qui s'appelait « Mais qu'est-ce qu'elles veulent ?» documentaire. Et elle avait interviewé des femmes de toutes les classes sociales, aussi bien des ouvrières d'usines de textiles, des paysannes donc vivant à la campagne et travaillant dans les champs, que des bourgeoises assez aisées dans leurs très beaux salons 19e, 16e, je ne sais plus. Et donc c'était très intéressant parce que le résultat de ce voyage qu'elle avait fait à travers les classes sociales pour recueillir la parole des femmes, il y avait un point commun, c'est que pratiquement toutes disaient « on ne nous écoute pas ». On ne nous entend pas, on ne nous écoute pas. Donc, c'était un premier film, je crois que c'était un film de 1976. Donc c'est tout à fait dans le contexte d'Elga. « Mais qu'est-ce qu'elles veulent ?» de Colline Serrault. Après, elle a fait « Trois hommes et un couffin » qui a eu un succès formidable puisqu'elle a battu Rambo l'année de la sortie du film, donc c'était quand même pas mal.
Et oui, et le film qu'on va voir tout juste après, c'est moi qui ai fait la traduction du titre et je ne sais pas exactement si en français c'est bien, mais ça s'appelle Carola Bloch, alors la femme prend les choses en main. Mais ça pouvait aussi vouloir dire alors la femme prend le destin en main. Ce que je trouvais assez beau aussi, mais un peu plus... l'expression était moins évidente en français, mais comme ça suit, si c'est ça le destin, et qu'après, alors la femme prend le destin en main, je trouvais que c'était une belle suite, mais bon. Et donc, c'est un film qu'Elga a réalisé en 1982 et qui fait le portrait de Carola Bloch, une femme engagée à gauche, féministe et pacifiste. Et donc dans le film, Carola raconte sa trajectoire qui a été marquée par des événements historiques hyper importants, la révolution d'octobre, la seconde guerre mondiale, l'érection du mur de Berlin. Et donc c'est sa vie qui est faite d'exil et de rencontres, et elle raconte à la fois son travail d'architecte et sa relation avec son défunt mari Ernst Bloch. Et ce couple était un des proches d'Elga. Donc c'est aussi, je pense, grâce à ça qu'on a ce témoignage qui est très intime, finalement. Et moi, j'ai pu lire... Après, maintenant, je prends les choses que je lis avec des pincettes parce que j'essaye de les vérifier après. Et parfois, ça passe pas le stade de la vérification. Mais j'ai pu lire qu'à l'origine, Elga avait prévu de faire un film de 90 minutes. Là, ce qu'on va voir, c'est 45 minutes. Et donc, elle voulait faire ce portrait de Carola. Mais le financement ne s'est pas concrétisé. Et apparemment, toutes les chaînes de télévision et les autres institutions ont refusé en prétextant quelque chose de l'ordre de raisons financières, du coup. Mais Martha Christine Körling a supposé dans le Frankfurter Rundschau, je suis désolée pour l'accent, que le sujet, en fait, était compliqué, parce que Carola Bloch était elle-même un personnage, une personne haute en couleur, mais qui...
Ce sont des gens qui étaient engagés communistes.
Voilà, qui
ça pouvait faire peur.
Voilà, qui apparemment faisait peur donc aux chaînes de télévision, parce qu'elle était communiste, juive, et qu'en plus, elle, vous verrez bien, mais elle ne... correspond en rien à l'image qu'on peut avoir d'une personne de son âge. Et donc voilà, j'ai hâte de vous faire rencontrer Carola Bloch, parce que j'ai passé 45 très belles minutes avec elle. Et voilà, je vous propose de faire une petite pause, notamment pour, je pense, à la personne en cabine qui est avec nous, Julie. Et voilà, on reprend le film à 20h. Merci beaucoup.
Un grand merci à Maxa, tout le
monde. Merci à toi.
Merci à Jackie et merci à
Marina. Merci à Maxa particulièrement, qui est venue spécialement vous rencontrer. Et à Marion, qui a tout préparé de façon formidable. Et merci aussi à Marina, qui est avec nous... et qui pense aussi beaucoup de choses sur les films. On ne lui a pas donné le micro, mais ça pourrait le faire.
Merci beaucoup. Merci.